7h53 minutes de la belle visite en studio, notre chroniqueuse politique Jacinthe Ève Harel. Et Jacinthe Ève, ça a l'air que notre liste d'épicerie de sujets vient de s'allonger un petit peu.
Surprise. Ben oui.
Comment ça va?
Ça va bien, merci.
Content de te voir. Moi toujours aussi. Un plaisir de t'accueillir en studio puis de jaser de politique, que ce soit au municipal, au provincial, au fédéral, des fois à l'international aussi.
Ben oui.
D'ailleurs, c'est sûr qu'on va parler de gestion de cartes de crédit chez la CAQ, mais peut-être avant, parce que ça vient de sortir là quelques minutes, voire une heure. Autre nouvelle du côté de la Suède.
Ben oui.
Fameux Northvolt.
Ouais.
Qui doit couper 300 postes additionnels dans une usine en Suède. Après les 1600 travailleurs qu'on avait laissé aller.
Ouais.
Mais apparemment, tout va bien quand même, là.
Ben oui, on continue de dire. Hier, Pierre Fitzgibbon, l'ancien ministre de l'Économie, disait en entrevue à la radio qu'il n'était pas craintif par rapport au projet de Québec. Et le PDG là, de Northvolt au Québec dit que le projet va continuer son cours et que ça ne change rien. Mais quand on est rendu qu'on fait des ajustements comme ça, là, un licenciement de 1600 qui a été annoncé précédemment il y a quelques semaines, ensuite un autre licenciement, un autre bloc de 300 personnes, après avoir annoncé de peine et misère en début de cette semaine que finalement on allait être correct pour payer les taxes parce qu'il était question d'un paiement de taxes que l'usine Northvolt n'était pas capable de faire en Suède. Le gouvernement suédois continue de dire qu'il ne se range pas derrière l'entreprise et qu'il ne supportera pas l'entreprise en Suède. C'est quand même très inquiétant tout ça. Parce que l'autre chose, c'est qu'il faut se rappeler que Northvolt est en difficulté parce que le carnet de commandes ne se remplit pas. Parce que la baisse de demande de batteries les affecte dans leur carnet de commandes, dans leur production, et que le marché chinois est tellement compétitif qu'on n'arrive pas là, à compétitionner sur le marché qui est déjà bien dominé par les Chinois.
Mais comment expliquer que le gouvernement de la Suède ne les supportera pas, mais qu'ici au Québec, on est prêt à les supporter à coups de milliards? Non, mais tu sais, il me semble quand tu as un fleuron, t'en prends soin.
Ben oui.
Puis d'ailleurs, au Québec, on est bon pour ça, d'en prendre soin. Je pense à Bombardier de ce monde, ou etc. Là, la Davy, là, comment on a investi de l'argent là-dedans. Fait que comment ça, nous autres, on dit « Hey, Northvolt, on y croit, mais la Suède dit « Hey, même si c'est un fleuron, le gars. » Je vais être tough à matin, mais qui crève, là, puis il y en aura un autre qui prendra la place. Là.
C'est ce qui est le plus inquiétant. Est-ce que c'est que je connais pas bien les pratiques économiques du gouvernement suédois. Est-ce que le gouvernement suédois n'investit jamais dans ses entreprises? Donc, ça serait juste sortir de ses habitudes?
Ouais.
Ou c'est parce que le gouvernement suédois connaisse bien ses dossiers et sait très bien que c'est de l'argent perdu, garoché dans le vide d'investir? Mais c'est sûr que ça peut permettre nous laisser très craintifs ici au Québec puis poser des légitimes questions.
Jacinthe Ève, on a un conseiller financier ici à Rage Against le matin qui s'appelle Marc-Antoine Reed, dont il parle chaque semaine, chaque mardi. Et il nous parle souvent de bonnes dettes et de mauvaises dettes. Dans les mauvaises dettes, on retrouve bien sûr les cartes de crédit à haut taux d'intérêt. Faut rembourser nos cartes, faut du moins payer nos soldes, payer le moins d'intérêt possible. Tout ça semble logique. Mais le gouvernement ne respecte pas ce conseil-là. Qu'est-ce qui se passe à la CAQ de dépenser autant avec des cartes de crédit?
Oui, puis avec des cartes de crédit, des dépenses personnelles, avec les cartes de crédit du gouvernement.
Oui, mais c'est des erreurs, ça.
Ben oui.
C'est à la station-service, je me suis trompé de carte.
Sorti la mauvaise carte pour mon chandail encadré de Guy Lafleur.
Oui. Non, mais il y a une gestion des cartes de crédit quand même vraiment douteuse. Il y aurait un beau dossier à aller fouiller de fond en comble, je pense, autant dans les cabinets ministériels que dans les agences gouvernementales, les bras financiers aussi à Investissement Québec. Moi, vous le savez, j'ai travaillé à Québec International. Mes collègues chez Investissement Québec avaient les cartes de crédit d'Investissement Québec à pas très haut niveau dans la hiérarchie. Là, on avait les cartes de crédit d'Investissement Québec. Alors, c'est quand même très questionnable et ça serait bien intéressant qu'on ait soit des journalistes d'enquête ou des partis d'opposition qui creusent davantage, qui fassent des demandes d'accès à l'information. Parce que franchement, quand on parle de dépenses publiques effrénées, quand on parle de saine gestion de nos finances publiques, on pense souvent à de l'argent qui est gaspillé à gauche, à droite, mais ça en fait partie aussi. Là.
On est-tu rendu à mettre la vérificatrice générale là-dedans? Parce que, tu sais, même le PM se paye un cadre avec ces cartes de crédit-là. Puis, tu sais, est indépendant de fortune. Là, fait que je me dis vraiment, tu sais, le bord est ouvert.
Oui, absolument, absolument. C'est un beau dossier pour la vérificatrice générale, j'imagine. Mais elle fait tellement des beaux rapports en plus.
Ouais.
Elle fait tellement des enquêtes. C'est un organe de l'État qui est vraiment indépendant, finalement, du gouvernement, qui fait des enquêtes très pertinentes. Alors, ça, j'espère que ce sera un dossier à venir.
Est-ce que les demandes des partis d'opposition, ça va avoir un impact ou elle a fait ce qu'elle veut, puis que les partis demandent ou pas, est-ce que vérification, c'est elle qui va décider?
C'est elle qui va décider, mais c'est sûr que si les partis d'opposition le demandent, habituellement, elle n'est pas politisée, elle n'est pas protectrice non plus du gouvernement élu en place. Donc, c'est sûr que je pense qu'elle va être très sensible aux demandes qui lui sont faites.
Je veux... Je veux qu'on soit clair, ça, puis je veux ton opinion là-dessus. C'est-tu si grave que... Vas-y avec la réponse, tu veux. C'est-tu si grave que ça, que le premier ministre, puis Jeff l'a mentionné, qui en a de l'argent, là, peut s'acheter personnellement là, son chandail de Guy Lafleur encadré, mais qui est utilisé pour décorer le bureau du premier ministre, soit acheté avec une carte du gouvernement? C'est-tu si grave que ça?
Bien, je me suis posé la question parce que je me disais, bien là, attends, ça dépend c'est quoi ses intentions. Est-ce que le chandail de hockey va être dans le bureau du premier ministre pour le reste de l'histoire
que
de l'Assemblée nationale?
Que ce soit lui ou quelqu'un d'autre.
Que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, puis qu'aux prochaines élections, si c'est un autre premier ministre, ça reste là ou il part avec? Et là, bien, on me disait, bien, il est autographié, il est signé François Legault, là.
Okay. Ouais, c'est ça.
Là,
ça va être tough au PSPP.
Pour François Legault, c'est ça. Donc là, je vais dire, bien, peut-être pour les histoires, l'archive, il pourrait rester à l'Assemblée nationale, mais franchement, quand c'est rendu que l'objet est personnalisé comme ça au nom d'un premier ministre, bien oui, on a dépassé les bornes. Ça fait plus partie de... c'est sûr qu'il y a des œuvres d'art qui sont achetées par l'Assemblée nationale pour décorer dans nos édifices gouvernementaux. Il y en a. Mais là, ça dépasse. Ça a été signé pour François Legault. C'est un objet personnel. Ça aurait dû être signé, ça aurait dû être payé avec son argent personnel.
Ben, pourquoi se mettre dans cette situation niaiseuse-là de bord?
Ben, oui.
Quand on l'a, l'argent, c'est quoi? 1 000 $?
Ouais.
Tu l'as, l'argent? Achète-les, décore ton bureau avec, repars avec.
Ouais.
Quand tu vas quitter, pourquoi se mettre dans cette position niaiseuse-là?
Ben, je pense que ça évoque à quel point certains élus, à force d'être au pouvoir, à force d'avoir un garde du corps en tout temps, oubliez pas, là, on garde du corps en tout temps, ils ne conduisent plus jamais leur véhicule à partir du moment où ils sont ministres ou premier ministre, dans le cas de François Legault. Et ça crée une espèce de bulle nécessairement où dans laquelle on se sent faire partie d'une élite. Les gens vous adorent, les gens vous appellent monsieur, les gens vous invitent sur les plateaux de télé, les plateaux de radio. Et la communauté d'affaires, la communauté entrepreneuriale, te critique très peu, hein, parce qu'elle espère obtenir une subvention, elle espère que l'autoroute passe chez elle, elle espère que ci, elle espère que ça. Donc là, même la communauté d'affaires est complaisante. Le journalisme qui est historiquement plus confrontant se fait de plus en plus rare. Hein. On est poli, on fait attention. Les retours d'ascenseur, là, et on n'est pas dans une époque nécessairement d'enveloppe brune, mais on est dans une époque encore de retour d'ascenseur. On peut se faire nommer délégué général du Québec aux États-Unis, à quelque part, dans une ville intéressante, en Europe. Parce qu'on a des bons liens. Alors, ça fait qu'on est entouré de gens qui font semblant ou qui nous apprécient, qui sont... Et bien, c'est ça, cette bulle-là, je pense que ça crée un confort qui les fait complètement décrocher de la vraie vie, du vrai monde, des vrais enjeux. Mm-hmm. Ils ne deviennent plus le commun des mortels parce qu'ils sont dans cette bulle-là de protection, d'adoration, d'admiration. Et ça, j'ai l'impression que ça crée des excès. On se dit tous, ben non, mais moi, si j'étais là, ça ne m'arriverait pas. Mais on ne l'a jamais vécu d'être entouré puis d'être mis sur un piédestal comme ça puis d'être adoré par tous puis d'avoir finalement ce sentiment aussi de toute puissance-là, hein, que, ben tu sais, Jeff, t'es bien gentil, tu m'as permis des chroniques à la radio, tu m'invites à chaque semaine. Alors, Reg, vous êtes super gentil avec moi. Fait que, tu sais, peut-être que quand je serai... peut-être que je vous nommerai, peut-être que, ben quand vous me demanderez un service...
Non, c'est ça, je comprends. Je vais être ministre des Sports quand tu seras première ministre.
D'accord. Oui, culture.
Oui, c'est ça. Exactement. Hey, on change de dossier. Québec solidaire, Ruba Gazal qui nomme officiellement co-porte-parole. Elle était la seule dans la course. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Québec solidaire? Je te donne mon opinion en premier lieu. Moi, je trouve que c'est une mauvaise nouvelle parce qu'elle est beaucoup trop à gauche. T'sais, elle est allée énormément pour le féministe avec notamment la course dans Jean Talon lors de la dernière élection partielle. Elle est très pro-Palestine, donc elle est très nichée. Je pense pas que ça soit une bonne nouvelle Québec solidaire, je me trompe-tu?
Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que ça place le Québec solidaire, ça le place dans l'échiquier politique, pas au centre. Ça le place là où il doit être. Là où il est, là où ses fondements, ses racines sont. Et souvent, ce qui arrive en politique, c'est que on reproche souvent aux partis de trop se ressembler puis de trop essayer de chercher la masse d'électeurs la plus grande pour se faire élire. Bien là, on le sait où il loge. C'est un parti urbano-centriste. C'est pas un parti des régions. On l'a vu avec le départ d'Émilie Sartérien qui habitait en Abitibi et qui portait des dossiers plus de type régionaux avec une vision plus régionale. C'est pas le cas avec Ruba Gazal. Alors, ça les place là où ils doivent être. Ils représentent vraiment leur base militante, leurs racines. Alors, on peut dire que Québec solidaire est à gauche et s'assume à gauche. Mais ce que je trouve déplorable, c'est que Ruba Gazal fait face à une chaise vide lors de son couronnement. On parle même de couronnement dans les médias, dans les articles. Alors ça, c'est déplorable parce que ça met en lumière peut-être cette vision unilatérale ou ce manque de démocratie à l'interne, ce manque de mise en défi. On dit souvent se faire challenger, mais là, il n'y a pas de challenge. C'est une bonne amie, une bonne complice de Gabriel Nadeau-Dubois. Est-ce que c'est un vrai co-porte-parole là quand un co-porte-parole? Co-porte-parole. Ouais. Est-ce que c'est un bon co-porte-parole quand on... J'arrête pas de le répéter en plus.
Tu donnes de la misère, là, c'est pas nous autres.
Mais est-ce que c'est une bonne chose que d'avoir des visions très, très, très... très dans le même sens, très semblable. Finalement, pourquoi avoir deux personnes qui pensent pareil, qui s'entendent pareil, qui ne se mettront pas les deux à se mettre au défi, se challenger sur des enjeux? C'est ça qui me questionne le plus. Je me dis, c'est de valeur parce qu'on s'en va vers... je te gratte le dos. Ah, t'es beau, t'es belle. Ah, t'es bon, t'es bonne. Là.
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut démontrer qu'il n'y ait pas eu de course, justement? Que personne d'autre, en date de mardi, ait dit, hey, moi, peut-être, j'aimerais ça être co-porte-parole. C'est-tu que... À l'interne, tu sais, ce que Gabriel Nadeau-Dubois a dit, c'est que c'est un beau signe de confiance envers Ruba Gazal, comme si tout le monde de chez Québec solidaire était comme « Bon, ben elle va être parfaite, fait que c'est pour ça qu'on y va pas. » Mais ça peut-tu vouloir dire autre chose?
Bien, si on était à l'écoute des propos d'Émilie Lessard-Terrien lorsqu'elle est partie, si on a bien lu ce qu'elle a écrit, si on a bien entendu ce qu'elle a dit, ça pourrait aussi indiquer qu'il y a un noyau dur et que ce noyau dur-là... fait figure d'autorité, n'est pas mis au défi, n'est pas revendiqué, n'est pas questionné. Alors, ça pourrait aussi confirmer qu'il y a un noyau dur autour de Gabriel Nadeau-Dubois. C'est lui, ses admirateurs, ceux qui pensent comme lui, ceux qui lui disent qu'il est bon, qu'il est fin, qu'il est beau. Puis je vous le dis souvent, en politique, c'est pas juste le cas de Gabriel Nadeau-Dubois. Dans tous les partis, c'est le grand piège quand on se fait élire, c'est de s'entourer de gens qui disent « t'es beau, t'es bon, t'es fin ». Les cabinets sont remplis de ça, de gens qui disent « ah oui », parce qu'on espère toujours peut-être avoir une promotion, avoir un déplacement, avoir des faveurs. On dit toujours comme notre patron, on dit toujours comme l'élu, puis on dit qu'il est beau. Donc, ça indique peut-être aussi qu'il n'y a pas un grand questionnement du pouvoir en place.
Jacinthe, peut-être un dernier petit mot sur la situation de notre premier ministre au Canada, Justin Trudeau. Ça sent la soupe chaude. On peut lire et voir dans différents médias là, qu'il y a de plus en plus de députés dans le Parti libéral du Canada qui veulent le départ de Justin Trudeau comme chef. C'est-tu bien inquiétant comme situation pour Justin Trudeau? Et est-ce que c'est la goutte qui va faire déborder le vase et qu'on aura des élections fédérales déclenchées avant Noël?
Je pense pas. Je comprends même pas la stratégie de ces députés-là. Ils sont rendus, semble-t-il, une trentaine là, à souhaiter son départ, à avoir signé une lettre papier. Là, donc, il n'y a rien de document qui circule en version électronique. En même temps, ça fuit, ça s'est rendu dans les médias, on en parle partout. Donc, la surprise n'aura pas lieu pour Justin Trudeau. On a entendu venir le coup. Si les députés avaient voulu surprendre, avaient voulu faire un coup d'éclat, ils seraient sortis en bloc avec les noms. Mais là, y en a encore qui... Ben, en fait, il y en a juste un là, qui s'est identifié. Les autres, ils se connaissent entre eux, mais ça reste anonyme, ça fuitait. Alors, la stratégie est étrange. Est-ce qu'ils se sont fait trahir par l'un d'eux qui a fait fuiter contre leur gré? Mais bref, la stratégie est très, très mauvaise et ça rend service à Justin Trudeau, finalement. C'est le moins pire des scénarios. Okay. Ce qui aurait été pire, c'est que ces 30 députés-là, puis c'est encore le temps qu'ils le fassent, c'est qu'ils deviennent indépendants. Oui. Là, si tu as 30 députés qui changent de clan puis qui disent « on sort du Parti libéral du Canada puis on devient indépendant », wow, ça va faire mal. Mais de réclamer sa démission alors qu'en ce moment, il ne se pointe même pas d'autres candidats à l'horizon, là, on peut tous nommer des noms, mais on s'entendrait probablement pas sur c'est qui la bonne personne pour prendre la chaise de Justin Trudeau. Et si on ne s'entend pas, c'est que finalement, il n'y a pas personne qui ressort particulièrement du lot qui serait prêt à prendre le leadership du Parti libéral du Canada à moins d'un an des élections, parce que là, on est à moins d'un an. C'est maximum comme... au plus tard en octobre 2025.
C'est pas comme à l'époque de Jean Chrétien. On savait que Paul Martin s'en venait. Ouais, ouais. Il n'y a pas de ça là, chez Justin Trudeau. Il n'y a pas ce dauphin-là.
Non. Il y a peut-être des gens qui aimeraient ça. Mais il y a peut-être des gens qu'on verrait là, mais il n'y a personne qu'on voit là qu'on se dit « Colin, il serait pas mal plus fort que Justin Trudeau. Ouais. Ah ouais, qu'est-ce qu'il attend pour donner sa place à lui? Ouais. » Donc, l'alternative n'est pas mise en lumière en ce moment. On ne sait pas qui ils ont en tête comme alternative. C'est un mauvais calcul politique d'avoir fait ça de cette manière-là, mais ils peuvent toujours se rattraper en ayant le courage de devenir indépendants. Là, ça pourrait marquer même l'histoire. Là.
Donc, définitivement une histoire à suivre. Oui. Jacinthe Avarel, notre chroniqueuse politique, que tu sais, toujours un immense plaisir de te jaser chaque semaine.
Plaisir partagé.
La liste était longue quand même, la liste d'épicerie. Il y en a du sujet dans le monde politique, municipal, provincial et fédéral. Merci, Jacinthe.
Merci.
On se reparle bientôt. Courte pause. Ensuite, est-ce une bonne idée le déploiement de nos médecins de famille? Peut-être prioriser les gens plus à risque, les gens malades, parce qu'on va s'entendre, objectif qui ne sera jamais atteint. D'avoir un médecin de famille pour tous les Québécois et Québécoises. On va en parler avec le docteur Pascal Renaud. Ridge.